Alors, on va peut-être vous donner en quelques mots comment nous nous sommes rencontrés et comment nous avons collaboré ensemble. J'ai effectivement une parenthèse politique dans ma carrière journalistique, mais je suis très profondément journaliste et réalisatrice et très peu politique, à vrai dire. Donc, ça n'a pas été forcément une réussite exceptionnelle, en tout cas pas au niveau des vraies politiques. Bref. Donc, j'ai été élue députée dans la grande vague Macron et je me suis attachée à travailler sur les enfants d'habitat précaire et faire en sorte qu'ils aient aussi leur chance pour réussir à l'école, justement, pour rebondir là-dessus. Et donc, les habitats précaires, c'était vraiment les habitats précaires, c'est-à-dire les enfants qui vivent dans les camps roms, par exemple, ou alors les mineurs non accompagnés, qui vivent parfois dans la rue ou dans les squats. Ton conjoint, qui donc est aussi chef d'établissement, en a sorti plus d'un la tête haute avec le bac alors qu'ils dormaient dans leur voiture ou dans des squats. Enfin, ça, je ne sais pas si tout le monde connaît la réalité des enfants pauvres dans une ville riche comme Toulouse, mais ça mériterait d'être mieux connu. Il y a aussi les enfants des gens du voyage. Et puis, il y a les enfants des hôtels sociaux, qui sont des familles qui sont logées en attendant qu'on statue sur ce qu'ils vont devenir en France, sur leur statut administratif. Et il s'avère que le Covid est tombé là-dessus, que tout le monde s'est retrouvé enfermé, et surtout les députés, je pense qu'ils avaient très peur d'attraper la maladie. Et que nous, du coup, on est sortis, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus personne, ni dans les camps de Gitans, ni dans les bidonvilles de Toulouse, ni dans les, si, dans les hôtels sociaux, si. Très vite, ça s'est. Quelques associations ont réussi à organiser l'aide humanitaire, parce que quand on ne sort plus, quand on mendie plus, quand on ne va plus dans la rue, on ne survit plus. Donc, il y a quelques associations, pas beaucoup, qui ont très très vite instauré l'aide alimentaire en tout cas. Et puis Blanquer, donc notre ministre de l'Éducation nationale, a lancé cette grande idée de la continuité scolaire. Il a lancé le pari que les écoles allaient quand même avoir une continuité scolaire. Et c'est là que Aminata intervient, en fait, à vrai dire, parce que elle était donc logée dans un hôtel social qui était complètement cloîtrée, comme les autres, avec ses enfants dans une chambre de 9 mètres carrés environ. Je pense que tu vas pouvoir raconter un peu voilà, comment on vit dans un hôtel social. Et je suis tombée, voilà, sur quelqu'un qui pratiquait déjà la continuité scolaire, à vrai dire, dans le hall de l'hôtel, dans des escaliers où la lumière s'allume, s'éteint toute la nuit, à côté des proxénètes, à côté de toute la faune qui peut vivre dans un hôtel social, et qui tenait à bout de bras, je l'ai vu de mes yeux vus, hein, on y a été avec mes collaborateurs, toute une série, tout un tas d'enfants qui étaient morts de faim d'apprendre, en fait, d'apprentissage. J'arrête de parler.
Bonsoir ou bonjour, Aminata Koulibaly. Je suis ivoirienne, donc originaire de la Côte d'Ivoire. Il y a 8 ans, je me suis retrouvée en France, touriste, avec mes enfants, et très vite j'ai été rattrapée par un diagnostic médical. Je souffrais d'une insuffisance rénale, et le médecin m'a dit: vous ne pouvez pas repartir. Si vous repartez, vous ne vivrez pas plus de 6 mois. Donc le diagnostic était lourd, mais ça lourd parce que ça voulait dire que je restais en France et je tombais dans la précarité. Donc avec tout ce qu'il y avait comme administratif et tout ça, je me suis retrouvée à l'hôtel social. Étant titulaire d'un master en gestion de projets humanitaires, au début, j'étais dans la déprime, et après, je me suis dit, il n'y a pas de hasard. C'est un terrain d'étude, faut appliquer ce qu'on a appris. Du coup, j'ai commencé à faire du social à l'hôtel. J'identifiais le besoin. Je faisais le soutien scolaire à ma fille, Et il y a un petit garçon qui était en CP, il m'entendait chaque fois faire les devoirs avec ma fille. Et il est venu toquer à la porte, il m'a dit, « Madame, est-ce que vous pouvez m'aider ?» J'ai dit, « Mais pourquoi tu ne vois pas tes parents ?» Il m'a dit, « Vous, vous parlez français, vous êtes française. Moi, mes parents, ils ne sont pas français, ils ne parlent pas le français. » J'ai dit, « Moi, je ne suis pas française, mais je viens d'un pays francophone. » Et en fait, lui, ses parents, ils étaient non seulement allophones, mais en plus, ils étaient analphabètes. Et le petit, je l'ai pris, il est venu tout de suite. Il était en CP, ma fille, elle était au CE2. Il répondait aux questions que je posais à ma fille. J'ai dit, mais c'est pas possible. Toute cette intelligence-là, j'ai eu mal en tant que mère de voir cet enfant qui était pétri d'intelligence, mais qui passait son temps avant à jouer dans les couloirs. Donc ça a réveillé quelque chose et j'ai dit, et quand j'allais à la réception, je voyais des devoirs traîner, c'était vraiment la période du Covid, les enseignants ils envoyaient les devoirs à l'hôtel mais ça traînait et j'ai vu le responsable de l'hôtel, j'ai vu des parents, je me suis mise en lien avec les enseignants et plutôt que de ramener les devoirs à, et les laisser traîner, je regroupais les devoirs, J'avais eu l'autorisation du responsable de l'hôtel, il nous avait donné sa salle de restauration comme elle n'était pas fonctionnelle.
Et on... C'est complètement exceptionnel parce que c'est vrai que souvent les responsables d'hôtel ne sont pas du tout aussi coopératifs.
Hein. Oui, oui. Et on avait organisé du coup du soutien scolaire. Ça a fait un boom, il y avait vraiment de la demande. Les enfants, ils me poursuivaient dans les couloirs pour apprendre. Les parents analphabètes qui voulaient apprendre, on a pu recenser des retraités, des étudiants pour pouvoir nous aider parce qu'il y avait trop de demandes. Et c'est dans cet élan-là que j'ai rencontré Sandrine qui aujourd'hui, je l'appelle ma mamoune. Elle est plus qu'une mère pour moi et à travers elle, par exemple, je vois vraiment cette valeur de fraternité dont on parle parce que dans la réalité, on dit fraternité, égalité, liberté. Je vois pas beaucoup dans la société comme ça. Ça marche pas dans les rues. Mais il y a des personnes exceptionnelles qui nous font vivre ça. Et moi, ce soir, j'attire l'attention de tous sur... comment, quand on est précaire, quand on vit dans la précarité, comment c'est difficile de vivre ces valeurs-là? Comment, déjà, comment on fait pour rester soi-même? Comment on fait? Parce que dans l'éthique, j'ai cru lire qu'il y a aussi de l'honnêteté. Il y a aussi, comment on fait pour rester honnête quand un système nous demande de tricher, par exemple. Comment on fait? C'est trop compliqué quand des personnes comme moi, par exemple, je suis quelqu'un droit dans ses bottes, je dis non, mais faut pas rentrer dans tous les systèmes qu'on connaît, des enfants papiers, des mariages blancs, de tout ça. J'accompagne beaucoup de personnes. Quand on voit comment le serpent il se mord la queue, quand on voit, je me demande c'est où cette égalité si ce n'est que sur le papier il y a vraiment pas, je la vis pas cette égalité. On est nombreux dans la précarité à ne pas la vivre. Du coup ça nous interpelle. J'ai tenu à être là aujourd'hui parce que je me dis même si je suis pas en train de parler au président de la République, mais chaque fois qu'il y a une occasion, c'est important de parler parce que les politiques ou ceux qui votent les lois et autres, beaucoup parlent de précarité sans savoir vraiment ce que c'est que la précarité. Et bien entendu, vu que tant que les chasseurs seront les seuls à revenir de la chasse, ils diront toujours qu'ils sont ils sont les vainqueurs. Le jour où les animaux ont la parole, ça changera. Ça changera. Donc, du coup, nous, on prend la parole. Je me dis, ma voix compte. J'ai la chance de parler français. J'ai la chance d'être intellectuelle. Ma voix compte. Je peux apporter à la France. Donc, quand je peux, je parle.
Voilà, et sa grande frustration aussi, enfin, si je peux parler pour toi, c'est de ne pas donner suffisamment, en fait, de ce qu'elle pourrait donner avec ses qualités intrinsèques, parce que la situation fait que, voilà, précaire, on est presque interdit de donner aussi, en fait, quelque part. Donc, c'est une façon de pratiquer son éthique qui devient même paralysée.
Oui, c'est ça, en fait, parce que, en fait, on ne va pas tout... On ne va pas tout balayer du revers de la main, tout ce qu'est cette grande générosité de la France. Par exemple, qui moi, aujourd'hui, j'ai des reins sains, même s'ils ont besoin d'un suivi, ce que je n'ai pas pu avoir dans mon pays. Mes enfants, ma fille, elle est à la fac. Mon fils, il rêve de devenir Mbappé. Donc, ma fille, elle est suivie pour ses problèmes de... d'apprentissage, dyslexie, dysorthographie, ce qu'elle n'a jamais pu avoir dans notre pays d'origine. Du coup, j'ai entendu la principale parler, j'entendais pratiquement la principale du collège de ma fille parler, juste une minute par rapport à ce qu'elle a dit, quand elle parlait des parents... qui sont d'une certaine classe sociale qui ne vont pas, ben, l'école, c'est aujourd'hui, moi, pour moi, l'école, par exemple, c'est un tribunal. L'école, ça juge quand tu n'es pas d'une certaine classe sociale. Moi, ma fille, on m'a dit tout de suite, au départ, on m'a dit, parce que je ne connaissais pas ce que c'est que les 10, on m'a dit, donc j'ai... Ma fille, elle m'a dit, maman, à l'école, on pense que je suis teubeu. On veut me mettre dans une classe de teubeu. Ils vont me regarder, mes amis se moquent. Du coup, moi, en tant que maman, j'ai voulu protéger mon enfant. Et heureusement, heureusement, la principale, elle m'a appelée, elle m'a dit, je sors d'une réunion avec des collaborateurs. Je vous vois vous battre pour vos enfants. Mais on est en train d'envisager un placement parce que vous ne voulez pas rentrer dans le système. J'entendais, je dis, mais elle me dit, et malheureusement, on va placer tous vos autres enfants. Je dis, c'est quoi ce système? Donc, mais la principale, vraiment, ma fille, elle est au collège Michelet. La principale, elle m'a accompagnée dans tout ce processus. Elle a pris à bras le corps. Mais, par exemple, la psychologue, dès qu'on a parlé de... MDPH, elle m'a sorti, c'est que quelques billets, hein. Pensez pas que vous allez gagner des thunes avec... Du coup, juste quelques exemples pour dire combien la société stigmatise les gens qui sont dans la précarité. C'est pas moi qui serais représentant des parents d'élèves, hein, parce que déjà, je me dis, ma voix ne sera même pas entendue, je suis mal vue, et puis les gens, ils vont parler... Les gens de Airbus, ils vont parler de leur problème d'enfant qui va faire l'équitation. Pourquoi moi, de quoi moi je vais parler? Donc, j'y vais pas aux réunions. J'y vais pas. Par exemple, même les réunions parents-prof, j'y vais pas parce que les profs, ils te diront, ils savent ton enfant a des handicaps, ils te diront, oui, vous dormez pas assez, l'enfant dort pas assez, pendant qu'ils savent que tu dors dans un taudis. Ils te diront, l'enfant ne dort pas, il vient, il est toujours fatigué, mais ils ne vont pas à la source du problème. Du coup, moi, c'est des endroits que j'évite et je réponds à la principale pour lui dire que c'est le système parfois qui fait qu'on a peur, on est jugé, on est stigmatisé. Du coup, on se braque, on se ferme, on ne va pas vers... Il faut comprendre que moi, j'ai la facilité de m'exprimer, moi, je n'ai pas... J'ai pas honte de ma situation. Je rencontre plusieurs fois à des cérémonies. Monsieur le maire, je discute avec lui, je lui en parle et tout ça. Mais il n'y a pas tout le monde. Il y a des gens, ils voient tout le monde en policier, ils voient tout le monde en préfecture.
Donc, ce n'est pas tout le monde qui ose lever un point de voile, c'est sa situation. Donc, on reste chez nous.
Et puis, à quoi ça sert, à un moment donné, de parler et de raconter et de dire ce qui se passe? Parce que sur ces trois enfants qui arrivaient à l'école avec des cafards qui sortaient du cartable et qui grimpaient sur les tables, parce qu'on ne peut pas faire autrement que de vivre avec les cafards dans les chambres d'hôtels sociaux, sa fille aînée, elle a eu le bac à 17 ans, et la préfecture se demandait... Elle ne pouvait même pas s'inscrire en fait en études supérieures parce qu'elle n'avait pas les sacro-saints papiers de la préfecture. Quoi. Alors, on ne va pas rentrer dans la question de pourquoi on donne des papiers, pourquoi on n'en donne pas, parce qu'on n'aura pas le temps. En revanche, comment s'incarne l'éthique dans la vie concrète, en fait, dans la chair de ses enfants, dans la chair de ceux qui sont amenés à réussir si on les aide, si on les aide un tant soit peu, je dirais, parce que toi, tu n'as pas été... vraiment aider, en tout cas, pour que ta fille sorte avec le bac et une mention, je crois, en plus. Hein.
Oui,
ouais, c'est ça. À 17 ans, tu n'as pas forcément été aidée, mais où est-ce qu'elle se situe, l'éthique? Moi, c'est là-dessus que j'aurais voulu qu'on puisse presque échanger, mais on n'aura pas le temps. On est quand même un pays de concepts perpétuels. On est un pays où on parle, on est des religions, où on passe son temps à bavarder, globalement. Je suis un peu caricaturale parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps puis que son témoignage est trop passionnant. Mais qu'est-ce qu'on fait de la réalité concrète que les chefs d'établissement, que les mamans précaires qu'on rencontre dans la rue, qu'est-ce qu'on fait? Elle est où l'éthique? Elle est chez le préfet? Elle est chez le maire? Elle est chez la responsable de crèche qui laisse des décervelés s'occuper des gosses, de mères précaires qui n'oseront jamais rien dire même si leurs enfants... reviennent avec des bosses parce qu'elles ne peuvent pas perdre leur boulot, parce que si elles perdent leur boulot, elles perdent leur papier, etc. etc. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces personnes qui ont tenu à bout de bras les hôpitaux? Ça, tout le monde s'en est bien rendu compte, évidemment, puisque tout le monde avait une peur, c'était d'être ne plus être soigné à l'hôpital parce qu'il n'y avait plus de femmes de ménage, et qui tiennent la société aussi. Enfin, je dérive un petit peu, parce que ça aussi, c'est mon combat, c'est ces femmes. Et j'ai essayé de combattre ça, enfin, de porter ça, quand j'étais députée, ça n'a duré que 5 ans, donc ça n'a pas suffi. Ça a peut-être ébranlé un petit peu l'édifice, mais qui se referme vite. C'est pour ça que des personnes comme Aminata aient pu témoigner à l'Assemblée par tous les tuyaux qu'on pouvait trouver. Ça a été un premier petit pas pour donner la parole à celles qui savent de quoi elles parlent quand elles parlent d'éthique et quand elles parlent d'égalité, non. Alors ça, je pense qu'on en est quand même très loin. On parle d'éthique, là. Donc d'éthique et surtout l'éthique du vivant, l'éthique concrète. Et ça, moi, j'aimerais bien, puisqu'on est tous plutôt intellectuels, comprendre à quel moment on fait l'inverse. On part d'une situation qui est aussi ma situation de journaliste. Évidemment, on traîne dans tellement de milieux qu'on est quand même très ancré dans la réalité. Mais à quel moment, voilà... on peut parler vraiment d'éthique. J'ai un autre exemple, un très très concret, hein, là pour le coup, quand j'étais à TF1 à Bordeaux, où une dame qui tenait une pension de famille m'appelle complètement affolée parce que sa pension de famille devait fermer à cause des portes coupe-feu. Ce n'était pas aux normes. J'y vais. Bon, je tombe sur vol sur au-dessus d'un nid de coucou. C'est-à-dire qu'il y avait l'hôpital Perrin, les psychiatres de l'hôpital Perrin qui étaient totalement débordés, les urgences dormaient sur des lits de camp et tout, qui envoyaient à cette dame, qui était une bonne matrone, les médecins psychiatres envoyaient les malades parce qu'ils n'avaient pas besoin d'être enfermés en fait. Ils étaient bien tenus par cette femme, ils vivaient presque normalement, c'est-à-dire qu'ils avaient des horaires, ils mettaient la table... Ils préparaient les repas, ils dormaient dans cette pension de famille, ils étaient surveillés pour la prise de médicaments, mais ils n'habitaient pas dans des foyers, ils ne dormaient pas dans la rue, ils se guérissaient de leur alcoolisme, etc., etc. Je les ai tous rencontrés, comme ils étaient en grosse, grosse panique, ils ont même réussi à s'exprimer de manière incroyablement intelligente. D'ailleurs, bon, j'ai fait un film, hein, qui n'a pas trouvé de diffuseur, donc voilà, ça, là aussi ça montre à quel point on s'intéresse. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allée voir le maire, évidemment, en lui disant, bon, si c'est un problème de porte-coupe-feu, franchement, là, on a quand même une vraie solution humaine à la problématique psychiatrique en France. Il m'a dit, non, mais vous rigolez, si jamais il y a le feu, c'est vous, TF1, qui viendrez immédiatement faire un sujet. Bon, ok. Je vais au conseil départemental, je vois monsieur, il s'appelait monsieur Solidarité à l'époque. Ce n'est pas son vrai nom, mais c'était le titre qu'avaient ces personnes-là, monsieur Solidarité. Mais au final, cette maison a fermé pour des histoires de porte coupe-feu. Les jeunes sont retournés dans des foyers, dans des hôtels sociaux. Les mamans ont été privées de leurs enfants. Et les vieilles personnes, parce qu'elles faisaient aussi, elles gardaient des personnes qui allaient terminer leur jour pareil, elles ont été éjectées par le système. C'est-à-dire que la loi, en fait, l'éthique de la loi administrative est 1000 fois plus puissante que l'éthique humaine. Ça, c'est des questionnements sans fin pour moi, en fait, ça. Donc, je ne sais pas si vous avez des réponses ou si vous avez envie d'échanger, ce serait intéressant. Et puis, on peut poser plein de questions à Aminata aussi. Alors, moi, j'ai une réponse quand même, peut-être juste, parce que c'est aussi dans le cadre scolaire. Les mineurs non accompagnés, ce sont des jeunes qui arrivent par leurs propres moyens, qui sont souvent très jeunes. Ils sont notamment, par exemple, à Gallieni ou dans les lycées. Ah oui, c'est vrai que je vous dis, j'ai ramené. Bon. Ces jeunes, ce sont les professeurs du lycée qui expliquent à quel point ce sont les moteurs de tout le reste de la classe. Ils sont les moteurs en s'exprimant, déjà en racontant leur parcours. Donc les enfants, bon, évidemment, se disent, si ces jeunes sont là aujourd'hui et qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de réussir, c'est bien qu'il se passe quelque chose. Le respect vis-à-vis des adultes et des professeurs. Et ils sont de véritables moteurs, alors que ce sont les plus morts de faim, en fait, d'apprentissage. Bon, je m'arrête là, je ne veux pas répondre à la place, hein, mais... Oui, c'est ça, il y a souvent un retour à l'envoyeur, c'est exactement ce que fait Aminata. Juste avant qu'Aminata reprenne la parole, on a monté aussi dans un bidonville à Purpan, un vrai bidonville, Rome. On a monté pendant le Covid dans un Algeco de l'aide aux devoirs. Les enfants sont absolument morts de faim d'apprendre. Ils sont morts de faim. Ils ont juste besoin qu'on leur donne des multiplications, de quoi lire. Alors la lecture c'est plus compliqué, mais les chiffres, il y a tout un tas de possibles qui demandent à être voilà. Et c'est ce qu'on a fait avec Aminata, mais je vais te laisser la parole. On a créé une sorte d'aide aux devoirs, mouvant, migrant, au fil des exclusions ou des déménagements d'hôtels sociaux, parce qu'il faut savoir que c'est des jeunes qui sont toujours obligés de changer, y compris d'établissement, ce qui facilite quand même pas beaucoup le suivi scolaire. Et donc, on a monté ça, mais cette faim de loup des enfants d'apprendre, ça, tu l'as vraiment vécu. Hein.
Oui, pour répondre à la question de madame, en fait, il faut comprendre que déjà, ça vient encore mettre l'accent sur ce que je disais, sur tous ces préjugés qui sont autour de tout ce qui est immigration. Et ces enfants-là, on me dira, oui, il y a des, comme on aime dire, il y a des racailles, il y a des canailles et tout ça. Mais généralement, il faut regarder d'où ça part. Quand quelqu'un, pour la plupart, décide de quitter son pays pour venir, il cherche un mieux-être. Donc, quelqu'un qui cherche un mieux-être, il comprend que j'arrive dans un pays où tout semble structuré et tout ça, c'est pas par un coup de bâton magique que je vais faire partie de l'élite. En France, dans l'entendement populaire avec lequel on vient, pour faire partie de l'élite, il faut aller à l'école. Donc, de base, la personne, il a cette idée, le parent, il inculque ça à son enfant. Moi, j'ai vu des cas où des enfants ou des parents ont déscolarisé leurs enfants parce qu'ils les trouvaient défavorisés. Aussi, des enfants qui se sont déscolarisés parce que le poids de la société, un enfant qui dort, comme je dis, dans ces conditions-là, ou qui frôle le bus tous les jours pour aller, qui a des amendes, tout ça, mais au bout d'un moment, ou le parent qui pense que c'est mieux que l'enfant aille vendre au marché que d'aller à l'école, au bout d'un moment, l'enfant, il perd le goût de l'école, ou s'il est à l'école, il n'est qu'un perturbateur. Il ne voit pas. Et même le côté, il y a ce côté où, finalement, la vie, la précarité fait de ces personnes précaires, fait de nous, des gens qui ont un peu, c'est un sentiment d'injustice. On a l'impression que pourquoi moi, juste parce que je suis pas née en France, ma qualité de personne humaine est dégradée, n'est pas prise en compte. Qu'est-ce que Sandrine a de plus? Elle n'a pas choisi de naître en France. Elle est née parce que ses parents étaient en France, ils étaient français. Elle est française. Elle n'a pas plus de mérite que moi, qui suis née en Côte d'Ivoire. On est tous des personnes humaines. Et pourquoi je suis sous-traitée, maltraitée, juste parce que je ne suis pas née en France? Donc, tout ça, ça crée des sentiments de révolte chez les personnes et on voit des gens qui deviennent des personnes très, très dangereuses pour la société parce que elles n'ont pas su digérer toutes ces frustrations. Il y en a qui, comme moi, transforment ces frustrations et disent « Moi, je veux servir d'exemple. Moi, aujourd'hui, je suis en train d'écrire un livre. Sandrine me fera l'honneur de faire la préface. »
Je l'ai appris il y a une heure. Hein.
Donc, ce livre, je l'ai terminé. Je veux que ce livre parle à la société. Si je me dis un livre, je n'aurai pas toujours un pupitre pour parler de ma situation, mais pas que de ma situation, de la situation de beaucoup de personnes qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Donc, ce livre, il va rester et il va parler pour beaucoup de gens. Du coup, moi, j'ai transformé cette, on va dire, faiblesse-là en une force pour affronter la société pour, je me dis, la goutte d'eau à force, forcément, ça va creuser et un jour, ça va rentrer où il faut que ça rentre, quoi.
Mais c'est un bon passage, je dirais, pour conclure peut-être, parce que moi je pense sincèrement, là je m'adresse presque plus à la communauté protestante, je m'en excuse, mais je pense qu'on a été trop loin dans la modestie, dans fermer sa bouche, dans jamais clamer ses valeurs, parce que ça se fait pas, parce qu'on fait ça voilà, presque pas sous le manteau, mais enfin on se met pas en valeur, voilà, on... Et d'ailleurs, j'ai un exemple complètement incroyable. Je viens de découvrir un petit papier que conservait ma mère qui vient de décéder, qui explique que mon père donc a servi comme agent de liaison en 43-44 jusqu'à la libération au comité d'action contre la déportation dans le service des faux papiers installé dans l'asile de Lambrecht à Châtillon, asile que tenaient mes grands-parents. C'est sympa de l'apprendre à 64 ans quand même, hein, vous êtes d'accord, hein. Donc ce manque de comment dire, hein, ce manque de gloriole, j'exagère en disant ça, mais enfin d'autres s'en seraient déjà tellement glorifiés, cette façon toujours de pratiquer l'éthique parce qu'on est protestant, parce que voilà. Je pense qu'on a tort aujourd'hui, on a complètement tort, ce sont les autres qui s'expriment, c'est les extrêmes, c'est on laisse... Moi, je nous appelle le ventre mou de la France, pas forcément que les protestants, là, pour le coup, hein. Mais je considère qu'on est le ventre mou parce qu'on ne proclame pas nos valeurs, on ne proclame pas les gens de valeur qu'on côtoie, et on a trop laissé s'infiltrer, justement, tout ce qui nous amène aujourd'hui à un pays totalement fracturé, comme si on était à deux doigts d'une guerre civile, alors que sincèrement, c'est uniquement probablement parce qu'on a vraiment... Il y a beaucoup de gens valeureux, il y a beaucoup de gens fraternels, il y a beaucoup de gens qui œuvrent, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils se retrouvent dans quel discours? Dans aucun discours. Et nous, on n'ouvre pas notre bouche. Donc, cher pasteur, je pense qu'aujourd'hui, il faut ouvrir sa bouche et pas que chez les rabbins, chez les imams et chez les évêques. Il faut, voilà, je pense qu'il faut travailler l'éthique de terrain.
Après, est-ce que cette tranche de la société a écouté vraiment? C'est ça aussi aujourd'hui. Est-ce qu'elle est écoutée? Aujourd'hui, les politiques, tout est vraiment politique. Par exemple, même si un curé, le responsable des pasteurs ou quoi, se lève pour aller voir, pour vouloir changer la condition d'une personne étrangère qui connaît très très bien, qui apporte beaucoup à la société, qui est maintenue dans la précarité de façon injuste, je ne pense pas que... ça pourra se faire parce que la loi dit c'est du pouvoir discrétionnaire du préfet. Donc, je suis d'accord qu'il faut quand même continuer d'en parler, mais bon, j'ai pas grand espoir que c'est cette tranche de la population là qui fera bouger les choses parce que le système lui-même, il est conçu de sorte à précariser les gens de sorte à se contredire, de sorte à se mordre la queue et on vit avec.
Il y avait une phrase d'Olivier Abel qu'il a citée tout à l'heure qui n'est pas de lui, hein. On est toujours barbare avec les faibles. Je l'ai noté rapidement, mais ça m'a vraiment frappé ça. Mais bon, voilà. Pour rester positif, je pense quand même si tu y crois moins, qu'il faudrait faire de l'éthique quelque chose d'extrêmement concret. Et vous avez complètement réussi les cultes, hein, ici à Toulouse, depuis Mohamed Merah, à vous réunir, à être très fort dans la fraternité œcuménique. Mais par contre, ça ne descend pas l'étage du dessous, quoi, en fait. Et c'est ça le problème, je pense. Enfin, pas forcément lié à votre responsabilité, mais je pense qu'il faut prendre cette place, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup d'électeurs qui ne se retrouvent absolument pas dans les choix radicaux. Et qui sont tout à fait humanistes. Bon, bref.
Merci.